Le mariage est la principale cause de divorce. Sans le premier, le second n'aurait jamais vu le jour. L'affaire se limiterait à une séparation, assortie de quelques larmes ou de vagues reproches. La vie reprendrait ensuite son cours et chacun poursuivrait son chemin, la tête haute. Un coup de gueule fielleux ou un suicide avorté viendrait de temps à autre troubler l'ordre des choses, mais ce ne serait que des cas isolés. Il n'y aurait pas ces discussions orageuses, ces règlements de comptes miteux, ces débats houleux, ces polémiques sordides. Ces déballages impitoyables et ces vaines tentatives de réconciliation. Il n'y aurait ni palabres interminables, ni négociations nauséeuses pour la garde du chien ou la répartition de la vaisselle. Sans mariage, le divorce n'existerait pas. J'aurais fait autre chose de ma vie et je n'en serais pas arrivé là. Lundi 22 août 2011. Chapitre 1. La fiancée du pirate. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ? Nolwenn Blackwell était plantée devant moi, les jambes écartées, les seins menaçants, la mini-robe en tension maximale. Comme tout un chacun, j'avais eu l'occasion d'apprécier sa plastique à la télévision, en particulier lors de ses démêlés médiatiques avec son footballeur. Néanmoins, la voir virevolter en chair et en galbe dans mon bureau me faisait plus d'effet que je ne l'aurais imaginé. Je fis glisser mes demi-lunes sur le bout de mon nez et la dévisageai. « Vous savez, madame, dans mon métier, nous assistons tous les jours à des choses scandaleuses, étonnantes ou cocasses. Plus récemment, je l'avais vue minauder au bras de sa dernière conquête pendant la finale du tournoi de Roland-Garros. Enlacés dans l'horloge, ils guettaient les caméras en se bécotant comme des collégiens. Au début du mois de juillet, sa conquête était devenue son futur conjoint. « Des choses cocasses, vous plaisantez ? Un homme qui vous trompe avec une prostituée aux yeux de tous, vous trouvez ça cocasse ?» Au début du mois, un paparazzi avait immortalisé son fiancé alors qu'il batifolait avec une stripteaseuse au bord d'une piscine dans une villa tropézienne. De fait, je trouvais la chose cocasse. Non, bien entendu, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Elle lança les bras en l'air. De quoi ai-je l'air? Nous étions censés nous marier. Les tabloïds sont déchaînés, je suis la risée de la planète. Elle n'avait pas tort. En revanche, annoncer sa décision de rompre les fiançailles à la une de la presse People sans en informer le principal intéressé n'était pas l'approche la plus habile pour tempérer la verve journalistique. D'un geste théâtral, elle posa une main sur sa poitrine. « Moi, Nolwenn Blackwell, la risée de la planète !» Le visage meurtri, elle s'assit, prit sa tête entre ses mains et se mit à pleurer. Au début de ma carrière, ce genre de réaction me désemparait. J'exprimais ma compassion, je leur offrais des Kleenex, je leur proposais quelque chose à boire. Avec l'expérience, j'ai compris que cela ne servait à rien. À présent, j'attends la fin de l'averse. Quand la scène perdure, je marque des signes d'impatience, je soupire, je toussote, je regarde l'heure. Ils récidivent rarement. Leurs larmes ravalées, je leur sers mon discours habituel. Un divorce doit être appréhendé comme un business. C'est une affaire comme une autre, du commerce, du marchandage. Aucune négociation ne se gagne dans l'émotion. En règle générale, les femmes en braient, certaines deviennent de redoutables businesswomen. Les hommes préfèrent lâcher du lest et cracher au bassinet, pour autant qu'on leur fiche la paix. Ils ont suffisamment à faire avec la gamine qui remplace leur épouse et monopolise leur énergie. Je m'abstins de le préciser, convaincu qu'elle le voyait comme tel. Je l'observais à la dérobée. Nolwenn Blackwell était le premier top modèle belge à avoir embrassé une carrière internationale. Mannequin dès ses 13 ans, elle avait défilé pour les plus grands couturiers alors qu'elle en avait à peine 17. Son 1,85 m, sa longue chevelure blonde, ses grands yeux verts striés d'or et ses formes avantageuses avaient ensorcelé les responsables de casting les plus retors. À 19 ans, elle avait quitté le plat pays et s'était installée à New York. Une publicité géante sur Times Square avait fini de forger sa réputation. Elle y apparaissait en tenue légère pour vanter une nouvelle gamme de croquettes pour chiens. Entre une séance de photos et deux défilés, elle avait séduit Roberto Zagato, un international de football argentin qui évoluait dans un club de pointe anglais. 6 mois plus tard, leur relation avait pris fin par insultes interposées dans la presse à scandale. Au début de l'année, elle avait jeté son dévolu sur Amaury Lapierre, un capitaine d'entreprise de 30 ans son aîné qui lui arrivait au menton, riche héritier d'un grand groupe industriel français et ami personnel de qui on sait. Après que la vidéo d'une interview confession qui versait dans une mièvrerie pitoyable eut créé le buzz sur Internet, l'opinion publique s'était émue. le petit Amaury avait-il la carrure suffisante pour diriger un groupe de 20 000 personnes qui pesait plus de 2 milliards d'euros en bourse? Son conseil d'administration lui avait recommandé de se montrer plus réservé ou d'officialiser sa relation. D'autant que son addiction pour le poker et les jeux de hasard avait déjà défrayé la chronique quelques années auparavant. Elle releva la tête et essuya ses larmes. « Je me sens trahi, outragé, bafoué. » J'ôtai mes lunettes. « Pourquoi être venu me voir ?» Elle se moucha. « Vous êtes le meilleur. » Je pressentais cette réponse, mais dans sa bouche, elle prenait fière allure. Il est vrai qu'en 15 ans de carrière et plus de 500 divorces, j'avais connu peu de revers. Je m'éclaircis la voix et pris un ton conciliant. « Je vous remercie, madame, mais vous n'êtes pas encore mariée, que je sache. » Mariée, l'affaire eût été un jeu d'enfant. Elle avait été gravement offensée par le comportement outrancier de son époux. Comportement qui rendait impossible toute poursuite de la vie commune. Il m'aurait suffi de plaider la désunion irrémédiable, de débattre le prix et d'établir ma note d'honoraire. « Je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose. On m'a dit que vous trouveriez une solution. » À l'origine, je ne me destinais pas à cette spécialité. Je rêvais de devenir la diva du pénal. Je voulais défendre la veuve et l'assassin. Le sort en a décidé autrement. À la fin de mes études de droit, j'avais ouvert mon propre cabinet au lieu de rejoindre une grande association comme l'avaient fait la plupart de mes camarades. Après une traversée du désert et quelques loyers impayés, j'avais reçu la visite d'un homme en instance de divorce. La procédure s'éternisant, il envisageait de réclamer des dommages et intérêts à sa future ex-épouse pour absence de vie sexuelle. L'homme se déclarait dans l'impossibilité de poursuivre une vie normale, son statut de catholique pratiquant l'empêchant d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Son avocat lui avait ri au nez. Poussé par mon découvert, j'avais pris l'affaire. J'avais jeté mes forces dans la bataille et obtenu gain de cause. Ce premier succès avait scellé mon destin. « Qu'attendez-vous de moi, Madame Blackwell ?» Elle se releva, se pencha en avant et frappa du plat de la main sur le bureau. « Que vous lui fassiez regretter ses actes !» Je profitais de la proximité pour sonder la profondeur de son décolleté. « Qu'entendez-vous par là ?» « Que vous lui fassiez cracher le dernier centime du dernier euro de son dernier million, que vous le ridiculisiez comme il m'a ridiculisé, que vous lui fassiez un procès retentissant et que vous le discréditiez aux yeux de tous. » Le vernis se fendillait. Sans vouloir vous servir un lieu commun, la sagesse populaire dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Elle haussa le ton. « Je ne veux ni mauvais ni bon arrangement. Je ne veux pas d'arrangement du tout. Je veux ruiner sa réputation, ruiner sa carrière, ruiner sa vie, et vous seul êtes capable de m'aider à le faire. » J'actai. Le secret de ma réussite ne tenait pas à ma bonne connaissance des rouages de la justice belge, mais plutôt à la mise à profit des lacunes du code civil et des vides juridiques. En outre, je n'hésitais pas à faire appel à certains techniciens pour servir les intérêts de mes clients. Photographe, portier, serrurier, tenancier de bar, danseuse légère, séducteur, éboueur, ingénieur du son, faussaire, flic retraité et ancien de la Légion étrangère faisaient partie de mes fournisseurs attitrés. En règle générale, la hauteur de mes honoraires me permettait de trier ma clientèle sur le volet. Pour témoigner de mon opiniâtreté à vaincre, je me faisais rétribuer au success fee, un pourcentage que je me réservais sur les sommes conquises. Je n'avais pas que des affaires juteuses à traiter, tant s'en fallait. Mais lorsqu'un divorce d'envergure se profilait en Belgique, l'un des conjoints débarquait à coup sûr chez moi. « L'affaire n'est pas des plus simples, madame. Votre relation avec M. Amaury Lapierre est malgré tout assez récente. Étiez-vous domicilié à la même adresse ?» Elle martela à nouveau le bureau en s'accompagnant du talon, manie qui commençait à m'agacer. « Non, mais la date du mariage était fixée, les lieux étaient réservés, la liste des invités était prête. » « J'en conviens, madame, mais aux yeux de la justice, vous n'êtes pas mariée. » Elle croisa les bras. « Ce qui signifie que je n'ai aucun droit. Nous sommes au XXIe siècle, non ? Une femme peut se faire déshonorer dans un pays industrialisé sans qu'elle ait le moindre recours ? C'est ça, la justice ?» J'étais en outre capable d'évaluer en quelques minutes les forces en présence et de soupeser mes chances de réussite. « Jouons carte sur table. Quelle somme avez-vous en tête ?» La question la désarçonna. Le droit français en la matière ne m'était pas inconnu. J'avais déjà eu l'occasion de croiser le fer avec mes confrères parisiens. Je connaissais leur propension aux envolées grandiloquentes. À leurs effets de manche, j'opposais une retenue verbale et un pragmatisme de bon aloi. Une nouvelle croisade dans l'Hexagone n'était pas pour me déplaire.